Le énervé de la suite ce soir, c'est au boulot, mais avant de commencer, un petit tour de table et rituel avec nos invités pour faire les présentations et caler les micros de chacun et de chacune. Je commence par Danielle Linhart. Vous êtes sociologue, directrice de recherche au CNRS et spécialiste du travail. Est-ce que ça va comme présentation?
Parfait.
Très bien. Zoé Touron, vous êtes dessinatrice, co-autrice avec Danielle Linhart de la BD Burnout. Ça vient de paraître au Lombard. C'est bon aussi?
C'est très bien.
Maria Ouazani, vous êtes psychologue clinicienne et responsable projet et innovation métier au sein de PSIA. C'est un cabinet de prévention et de gestion des risques psychosociaux.
C'est très bien aussi.
C'est parfait, ça, aujourd'hui, c'est un sens
fort. C'est fort, Laurent.
Et Hubert Prolongeau, vous êtes journaliste indépendant, grand reporter et co-auteur du récit enquête graphique publié chez Futuropolis, Le Travail m'a tué, sans faute d'orthographe. C'est parfait.
C'est impeccable, je n'aurais su mieux dire.
Alors c'est parti.
Rendez-vous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Nouveau.
Nouveau.
Ce soir.
Bonsoir ou alors bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Ce soir, c'est boulot, mais pas trop, hein, parce que fin mai, l'Organisation Mondiale de la Santé a annoncé la classification du burn-out comme maladie. Et le lendemain, elle a démenti. Et puis le 28 mai, un porte-parole de l'OMS nous a expliqué que le burn-out était passé de la catégorie facteur influençant l'état de santé à celle de phénomène lié au travail. Mais c'est quoi ce travail? L'actualité, elle aussi, est au bord du burn-out. Il y a le procès de France Télécom pour harcèlement moral suite à la vague de suicides et puis l'annonce d'une réforme du système de santé au travail. Et enfin, deux bandes dessinées viennent de paraître sur le sujet, Burn-out et Mon travail m'a tué. Il était plus que temps de faire le point, de savoir si les choses sont en train de changer quant à la gestion et au traitement du mal-être au travail, quelles sont les solutions proposées, quelles sont les inventions managériales dans le monde de l'entreprise. Autant de questions que l'on se pose ce soir avec ce laborieux de Benoît Lagan. Dans le Énervé la suite, la petite entreprise, c'est parti.
France Inter, le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard.
Ça, c'est vrai qu'on peut dire que vous travaillez, vous, Benoît Lagan.
Oui, beaucoup.
Faut pas en dire tout le monde dans l'équipe. vous voulez des noms?
Tout le monde travaille dans l'équipe, Laurent.
Ah ouais?
On est une sacrée équipe. Dans le monde du travail, ça va mal. Chez nous, ça va à peu près, mais dans le monde du travail, ça va mal. Étrange époque, donc, que ce 21e siècle, où l'on ne cesse de nous dire que le travail est moins pénible qu'au siècle dernier, dans lequel on nous révèle, études syndicales à l'appui, qu'un travailleur sur trois souffrirait d'épuisement professionnel, le fameux burn-out. La faute, dit-on, à de nouvelles méthodes de travail mises en place pour rendre plus moderne et plus flexible le travail. J'ai même du mal à le dire, flexible. De nouvelles organisations du travail afin d'adapter l'entreprise aux défis de demain. Ça, c'est les belles formules. Et pour cela, dans les entreprises du 21e siècle, on aime se fixer des objectifs. Et c'est vraiment avec le terme objectif que tout commence à vriller dans le récit graphique que vous signez, Hubert Prolongeau. Tout commence à vriller dans la vie de Carlos Pérez. C'est un personnage fictif. Carlos est un enfant d'immigré espagnol qui rêve de travailler dans l'industrie automobile. Il est le parfait et bon exemple de la réussite pour lequel l'ascenseur social a bien fonctionné. Élève méritant, études brillantes, il intègre comme premier job l'entreprise de ses rêves. Carlos est passionné, compétent, travailleur. Bref, une grande carrière s'annonce. Alors comment, au bout de plusieurs années, à force de se confronter à de nouveaux et nouveaux chefs qui lui demandent toujours plus d'objectifs à atteindre, comment expliquer que Carlos craque? Exemple vraiment passionnant au centre de la BD, ce logiciel Extreme Design auquel Carlos va devoir se confronter et qui est censé être, je cite, assez technique et pointu dans sa prise en main, mais qui facilite la vie quand vous maîtrisez les principales fonctionnalités. Un outil qui va surtout rendre fou Carlos, qui seul face à sa machine est incapable de le faire fonctionner. Hubert Prolongeau, dans cette trajectoire fictive de Carlos, mais inspirée de faits réels, qu'est-ce que vous aviez envie de montrer au final? C'est le résultat d'une pure incompétence managériale ou le sabotage organisé d'une vie professionnelle par les mêmes managers?
C'est les deux. Ce sabotage existe parce que les managers ne réfléchissent pas au bien-être ou même au bien-être, à la façon dont les travailleurs peuvent travailler. Ce qui est intéressant dans le parcours de Carlos et de son modèle, parce que c'est très inspiré de la réalité, c'est plus transposé qu'inventé, c'est que au départ, Carlos avait tout pour être un élément parfait. C'est qu'en fait, il y a un gâchis humain incroyable parce que c'est pas ceux qui ne foutent rien qui sont victimes. C'est pas ceux qui s'arrangent pour en faire le moins possible et pour. C'est ceux qui s'investissent à fond. C'est ceux qui mettent toute leur vie dans l'entreprise. Donc c'est vraiment les gens qui pourraient servir, qu'on pourrait utiliser, qui pourraient faire avancer les choses. Et c'est eux à qui un système managérial assez diffus, suffisamment diffus pour qu'on puisse pas désigner un responsable. C'est un peu comme la crise bancaire de 2008. Il n'y a pas une personne qui est responsable. Là, c'est pareil. C'est un système. C'est l'application d'un système, des tas de petites choses qui prises séparément les unes après les autres ne sont pas si graves que ça. D'ailleurs, beaucoup de gens passent à travers les mailles du filet. Et c'est l'argument de ceux qui mettent ça en place. Ils disent, mais tout le monde ne se suicide pas. Ben oui, mais le problème, c'est pas ceux qui ne se suicident pas. C'est pas d'ailleurs parce qu'ils ne se suicident pas qu'ils ne souffrent pas.
Qui ne souffrent pas au travail, bien sûr.
C'est ceux qui le font. Et qui vont jusqu'au bout. Et donc, c'est cette accumulation de petites choses qui sont effectivement les objectifs absurdes, l'individualisation des résultats, les équipes cassées, la séparation entre l'ouvrier ou l'ingénieur et l'objet qu'il fabrique, la perte de sens globale, les laisses électroniques. Tout le monde s'est extasié devant la merveille que sont les ordinateurs, les mails, les téléphones. C'est génial, on peut parler à tout le monde tout le temps. Sauf que il y a plus de temps libre, il y a plus d'espace hors de l'entreprise. Même les usines très dur du 19e et de la révolution industrielle. Les horaires étaient terribles, le travail était très dur, mais quand on était hors de l'usine, hors des murs de l'usine, on n'était plus dedans. Maintenant, c'est pas possible. Vous recevez des courriels à n'importe quelle heure, il faut répondre. Et c'est tout ça qui amène à la mort des gens qui voulaient vraiment, vraiment, vraiment s'investir.
C'est inspiré d'Antonio B, hein, finalement, cette histoire, en 2009, qui va condamner, dont la veuve va condamner Renault pour faute inexcusable suite au suicide de son mari. Daniel Linhart, c'est cette histoire qui a inspiré Hubert Prolongeau, cette histoire de Renault, c'est un moment déclencheur dans l'histoire, comme ça, du malaise au travail?
Mais je crois que, moi, j'irais peut-être plus systématiquement dans la mise en cause du management que vous ne le faites, parce que je crois que à la base il y a une volonté réelle de la part du management d'asseoir une emprise, d'asseoir une domination sur les salariés pour éviter qu'ils n'essayent de peser sur la définition de leur propre mission, sur les moyens dont ils ont besoin et sur le sens qu'ils veulent donner au travail. Ça, c'est quelque chose qui a toujours été concomitant des difficultés auxquelles était affronté le management. Comment faire pour obliger des professionnels à renoncer à leurs propres valeurs, à leur éthique professionnelle, à leur propre vision du monde, pour n'endosser que le rôle qu'on veut qu'ils assument fidèlement. Et du coup, il y a des pratiques managériales qui sont délétères et qui ont pour fonction de mettre un peu en difficulté les salariés de telle sorte à ce qu'ils soient dociles et réceptifs. Regardez un peu ce qu'on entend tout le temps dans les entreprises. Il faut sortir de sa zone de confort, il faut savoir se remettre en question et prendre des risques, la mobilité ça aide à ne pas se sentir trop à l'aise dans son travail, il faut pas avoir des réseaux de complaisance et être trop proche des autres. Donc il y a cette
idée... Et
tout
ça c'est faux d'après vous ?
Mais il y a... Oui, non, attendez, faux... Comment
non, je veux dire, tout cela est négatif de dire cela.
Alors,
à des employés.
Je pense que
la mobilité, sortir de sa zone de confort.
Oui, c'est dangereux, ça peut être délétère si ça vise à mettre en moi ce que j'appelle précarité subjective des salariés. C'est-à-dire que au fond, et c'est un peu le but, je pense, voulu par les pratiques managériales, de faire en sorte que les salariés ne se sentent pas à l'aise dans leur travail et entre eux dans leur travail, les open space, c'est ça, ils sont sur la surveillance de tous, de façon à ce qu'ils soient, à ce qu'ils rentrent concrètement dans cette relation qui est marquée par du sceau de la subordination. Il faut parvenir, quand on est un manager, à concrétiser la subordination des salariés. Donc, les mettre en instabilité. Et donc, on change tout le temps les logiciels, on change les collègues, les interlocuteurs, on recompose les métiers, on restructure, etc. De manière, ça a été théorisé par des gourous, par des consultants qui disent, il faut distiller un petit peu d'anxiété chez les salariés. Pas trop parce que ça les anesthésie, mais un peu pour qu'ils soient réceptifs et qu'ils ne soient pas dans la volonté de s'imposer.
Vous êtes d'accord, Maria Ouazzani, vous qui êtes psychologue, travaillez avec les...
Oui,
les
tu parles qu'elle est d'accord.
moi, je pense qu'effectivement, il y a plusieurs choses derrière ces phénomènes-là. Il y a la question du management, et évidemment, il peut s'agir d'un management volontairement défaillant pour arriver au bout de quelque chose et de tirer justement la ficelle de l'objectif, de l'accomplissement, avec cette question de sortir de sa zone de confort, avec tout ce qu'il y a de culpabilisant aussi.
C'est ce que vous entendez dans vos cabinets, dans votre cabinet.
On peut être, les salariés peuvent être soumis à ces agissements. Ils sont effectivement existants. Après, il y a quand même des mouvements qui sont de plus en plus continus, voire même des mouvements perpétuels, l'organisation aujourd'hui, les organisations de travail n'ont plus, ou en tout cas si elles l'ont eu, mais n'ont plus la stabilité, ou en tout cas ne la retrouvent plus. Avant, on pouvait parler de changement, on passait d'un état A à un état B, donc il y avait quelque chose, il y avait un chemin, mais on retrouvait une certaine stabilité. Aujourd'hui, on a l'impression, en tout cas nous, c'est ce qu'on constate au sein de notre cabinet, d'avoir des entreprises qui sont soumises à des mouvements perpétuels, donc qui embarquent évidemment le management, hein, derrière, qui doit asseoir ces mouvements perpétuels ou en tout cas les accompagner, et qui se répercutent évidemment dans leur façon de manager, leur façon aussi de donner des indications aux salariés. Donc je pense que c'est un mouvement dans lequel je trouve, management compris maintenant, n'a plus de prise, plutôt que de constater en tout cas qu'il y a une maîtrise à ce point-là d'un système de management sur cette question du mouvement et du changement perpétuel. Je pense qu'eux-mêmes sont pris là-dedans.
Qu'est-ce que vous attendez, chacun et chacune, du procès qui s'est ouvert le 6 mai dernier, le procès de France Télécom? C'est du jamais vu, hein. C'était la première fois qu'une entreprise du CAC 40 était jugée pour harcèlement moral. Un procès dans lequel comparaissent également l'ex-PDG, l'ex-numéro 2, l'ex-DRH et quatre anciens responsables jugés pour complicité. Qu'est-ce que vous en attendez? Comment vous regardez-vous, Hubert Prolongeau?
Moi, j'aimerais bien, qu'il serve à démonter de la manière la plus précise possible un mécanisme. Et qu'on arrête de dire que les gens qui mettent ce mécanisme en place ne font qu'obéir à des ordres, ne sont pas responsables, et prennent des décisions vers lesquelles tout les pousse. Il y a moyen de lutter contre. Il y a un mouvement qui s'appelle les entreprises libérées, qui sont des entreprises, il y en a certaines en France, qui essaient de se dégager un peu de cette logique managériale terrifiante. Et il faut mettre ça en avant, il faut qu'on comprenne que oui, il y a des responsables, et oui, il y a des manières différentes de travailler. Donc la fait de dire, moi, je faisais marcher ma boîte, tout le monde fait pareil, donc c'est pas ma faute, il faudrait que ce procès dise que non, ça ne peut plus durer comme ça.
On va voir tout à l'heure, dans quelques instants justement, quels sont les nouveaux modes de fonctionnement au niveau du management. Tout de suite, je vous propose un message d'amour. Et oui, ça fait du bien, surtout pour ce sujet. C'est celui des Pretenders.
Now the reason we're here as man and woman is to love each other, take care of each other. When love walks in the room, everybody stand up. Oh, it's good, good, good. Like Brigitte Bardot. Now look at the people in the streets, in the bars. We are all of us in the gutter. Some of us are looking at the stars. Look round the room. Life is unkind. This way, your eyes are blue, like the heavens above. Talk to me, darling, with a message of love. Now the reason we're here, every man and every woman, is to help each other, stand by each other. When love walks in the room, everybody stand up.
Yeah.
Message of Love, la guitare Fender, le perfecto rouge de Chrissy Hynde, une programmation zen, ou presque, de Jean-Baptiste Audibert.
J'ai fait un malaise où je me suis littéralement écroulée. Effectivement, je me suis retrouvée à un moment donné en dépassement total. C'est vraiment le corps qui a totalement lâché.
L'épuisement professionnel, près d'un salarié sur trois en aurait déjà été victime.
Le nouveau rendez-vous.
J'avais un verre d'alcool, une clope et mon arme de service. Et je me suis dit, je peux plus. J'ai tenté le suicide à cause de ça, parce que je voyais plus la lumière au bout du tunnel.
28, c'est le nombre de policiers et gendarmes à s'être donné la mort depuis le début de l'année 2019.
Sur le banc des accusés, plusieurs anciens hauts dirigeants de France Télécom, 35 salariés s'étaient donné la mort alors que l'entreprise était en pleine restructuration.
Sur France Inter.
Burnout à tous les étages, on en parle ce soir dans le Énervé la suite avec nos invités. Justement, on vient d'entendre France Télécom encore évoqué. Daniel Linhart, vous qui êtes sociologue du travail, vous vouliez faire quelques mots justement sur ce sujet-là, le procès qui vient de s'ouvrir de
oui,
France Télécom.
Je trouve que le procès de France Télécom est particulièrement intéressant parce que il nous montre précisément qu'il y a une stratégie à l'origine de ces politiques. Que disait Lombard en 2007? Il disait « Il me faut 22 000 personnes ». En moins. Et il a réuni tous ses cadres en disant, voilà, il faut les faire partir par la porte ou par la fenêtre. Il l'a dit, il n'a pas contesté ces mots. Et du coup, l'encadrement, a essayé de créer les conditions pour donner envie aux gens de partir, pour qu'ils n'aient plus envie de rester. Et on a procédé à des pressions, des humiliations. Ah, t'es encore là, t'as rien trouvé à l'extérieur, tu sais qu'ici t'es pas très efficace. À des mutations, muter des gens qui étaient lignards, qui travaillaient dehors, en plein air, sur les lignes, on les mettait sur des plateaux de téléconseillers. Ah bon, t'es pas heureux, ça va pas, etc. Donc, il y avait cette idée que, premièrement, il fallait créer les conditions pour que les gens aient envie de s'en aller. Et deuxièmement, il fallait que ceux qui restent comprennent bien que les temps changent et qu'il fallait qu'eux-mêmes commencent une sorte de métamorphose identitaire et professionnelle et acceptent des nouvelles règles du jeu parce qu'ils n'étaient plus dans une entreprise de service public. Donc on voit bien qu'il y a cette idée pour le management de trouver les moyens de mettre en difficulté leurs salariés.
Alors justement, en parlant de moyens, dans cette BD, vous signez une BD Daniel Linhart avec Zoé Touron, qui elle l'a dessinée, vous parlez du Lean Management.
Le Lean Management, en fait, c'est tout simplement la prolongation de la logique taylorienne. C'est faire en permanence l'économie des temps et des coûts. Alors on lui a donné un nouveau nom pour faire pour le relooker, mais c'est... dans la continuité de la pensée taylorienne, aller un peu plus loin et faire en sorte que chaque salarié devienne lui-même le relais de la préoccupation taylorienne et que donc chaque salarié pense en permanence de faire l'usage de lui-même le plus efficace et le plus rentable du point de vue des critères de sa direction. C'est ça le lean management, c'est chercher tout le temps à éviter des gaspillages en temps, mais ça veut dire des moments de respiration, des moments où on fait un petit peu de pause, de chercher à faire en permanence des économie en termes d'effectifs, en termes de matière, etc., etc. Et du coup, chacun est considéré comme étant autonome, réactif, proactif, etc., parce que il doit constamment veiller à se rendre le plus rentable possible, tout en appliquant quand même des procédures, des protocoles, des process, des bonnes pratiques définies par ailleurs.
Et ça, c'est plutôt dans le privé, dans le public ou chez les indépendants?
Les deux.
Les deux? Ah ouais, les trois. Non, attendez. Les indépendants, non, quand même.
Non, mais dans le public, ils ont introduit ce qu'on appelle le New Public Management, c'est-à-dire, c'est tout à fait la théorie du management privé, une individualisation de la gestion et de l'organisation du travail des salariés, une mise en concurrence, la recherche de minimisation des coûts en permanence, la rentabilité. C'est pour ça que on voit maintenant ce qui se passe au niveau des hôpitaux, au niveau des urgences. Ils sont confrontés à des conflits éthiques, des conflits de valeurs absolument dramatiques parce que on leur dit combien de temps, par exemple, ils doivent passer. On dit ça aux médecins psychiatres, combien de temps il faut passer avec un schizophrène, c'est-à-dire que ils n'ont plus la possibilité de s'affirmer en tant que professionnels qui maîtrisent cognitivement leur travail, mais qui en même temps peuvent faire passer leurs valeurs professionnelles. Et là, on fait économie des lits, économie du temps des infirmières, mobilité systématique, voilà. Et on perd le sens du travail et le sens de l'engagement professionnel.
Mais alors, quelles sont les réponses que l'on peut apporter, notamment, par exemple, dans le secteur médical, mais notamment dans d'autres secteurs, puisque c'est chaque fois des enjeux économiques qui sont mis en place? Comment vous voyez ça, vous, dans votre cabinet?
C'est vrai que ça peut poser pas mal de questions en termes de lien au travail, et j'ai envie de dire de lien social, hein, déjà.
Maria Ouazini, du cabinet Psia.
Voilà, je pense qu'il y a plusieurs choses derrière ce que vous dites sur le lean management. Il y a déjà le facteur temps qui devient une on va dire un enjeu majeur en fait, hein, que ce soit dans le public, le privé, et peu importe le travail qu'on fait. Et justement, c'est là où ça devient plus compliqué en termes de travail pour un salarié, c'est de faire son travail de qualité. Et quand on a effectivement des injonctions temporelles, de pression temporelle forte, évidemment ça vient en conflit avec ce qu'on conçoit de son métier propre, de son activité propre et de la qualité qui le définit. Donc je pense qu'un salarié face à cette pression temporelle n'a plus de marge de très peu de marge de manœuvre, et voire plus le droit à l'erreur aussi, on n'a plus le droit de se tromper ou de réfléchir, et je pense que c'est cette tension-là qui met les salariés face à une réalité très forte, c'est-à-dire une qualité empêchée qui peut être justement contraire à leur valeur métier.
Et une déconnexion réelle par rapport à l'essence même de leur métier. Dans votre BD, Hubert Prolongeau, vous montrez comment Carlos, quand il voit la voiture dans la rue, la voiture qu'il a censé imaginer, sur laquelle il travaille, il la voit pour la première fois, et tout d'un coup là il sent à quoi il sert, et c'est que dans la rue, par accident, qu'il découvre à quoi il sert.
Oui, et ça, c'était très, très frappant. En fait, tout bêtement, les ingénieurs qui fabriquaient une voiture ne voyaient plus la voiture qu'ils fabriquaient. Et je crois que c'est Simone Veil, pas celle du Panthéon, l'autre, la philosophe, qui avait théorisé cette rupture entre ce que l'on fait et ce pourquoi on le fait. Et effectivement, alors, on travaille dans le vide, et la seule notion qui compte, c'est la rentabilité, c'est le chiffre, tout devient comptabilisé, tout devient...
Mais une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on peut opposer alors à ça ?
Opposer, c'est à la fois naïf et énorme, et je suis pas économiste, je sais pas si ça tient la route, mais c'est de dire que le profit n'est pas tout, tout bêtement. C'est-à-dire qu'une entreprise...
Oui, mais ça, c'est très naïf de dire ça aujourd'hui, Hubert Prolongeau. Je vous en suis reconnaissant, mais en même temps, c'est inécoutable.
Mais pourquoi c'est inécoutable ?
Vous ne pouvez pas dire ça.
Si on considère...
D'ailleurs, Benoît Lagan est un pressé qui vient de casser son fauteuil. Il n'a plus de dossier. Benelina.
Moi, je suis totalement d'accord avec ce que vous dites, et pas uniquement pour des raisons liées à l'entreprise et à ce qu'on appelle les ressources humaines, qui sont bien entendu fondamentales, mais liées aussi à l'avenir de l'humanité sur la planète. On ne peut pas...
Qu'est-ce que l'on peut opposer à une entreprise qui fonctionne sur ce mode qu'on comprend bien de rentabilité économique.
Je peux vous donner un exemple. Je viens de faire un reportage dont le rapport avec ce dont on parle est lointain, mais pas tant que ça. J'ai passé une semaine là dans un EHPAD, donc un endroit qui accueille des retraités, institution extrêmement décriée ces temps-ci, parce qu'on s'aperçoit que justement beaucoup d'entre elles, parce qu'il faut gagner de l'argent, ils sont privés, donc on traite mal les gens, on leur donne de la nourriture médiocre, on rabiote surtout. Là, j'étais dans un EHPAD, donc la Villa Pia à Bordeaux, puisqu'il est parfaitement légitime de le nommer, qui est une association et dont le but est de ne pas faire de profit, ni de déficit. Et du coup, les gens sont traités extrêmement bien. C'est-à-dire, ça ne rend pas la vieillesse marrante. Mais ça veut dire qu'il y a une attention réelle portée aux gens. Ça veut dire que le
décès. Donc il faudrait que les entreprises renoncent à faire du profit.
Pas totalement, mais un peu. Est-ce qu'on est obligé de verser 15% tous les ans à des actionnaires ? Qui en plus font semblant de ne pas voir le rapport entre les conditions de travail qu'il y a et le fait qu'ils n'ont pas l'argent. On peut leur dire « Ok, ben, vous allez gagner 8% simplement, ça fait que tout le monde vit assez correctement. » Et puis les gens dans l'entreprise, ils seront contents de ce qu'ils font, ça aura du sens. Les entreprises libérées, c'est ça. Ce sont des entreprises qui font passer l'éthique avant le profit pur. Ça ne veut pas dire qu'elles gagnent de l'argent et que le but, c'est que tout le monde se retrouve miséreux ou au chômage après. C'est qu'on en gagne un peu moins pour à côté valoriser une autre valeur qui est le fait de faire un travail qu'on aime et de le faire dans des bonnes conditions.
Moi, je voudrais vous interpeller. Pourquoi vous pensez qu'on ne peut pas remettre en cause la question du profit ?
Je ne pense rien. Je fais l'avocat du diable.
Alors donc, je parle au diable. Voilà. Pourquoi est-ce que le diable considère que le profit, c'est quelque chose de naturel ? Le profit, c'est une construction sociale et économique. Il y a des gens, à un moment donné, à la suite de toute une série de décisions, etc., ont défini que des entreprises pouvaient être rentables, déboucher sur du profit, puis au fur et à mesure de la financiarisation de l'économie, on décidait que ce profit devait être de plus en plus important, que les actionnaires devaient en avoir la part la plus importante, on pourrait tout à fait imaginer que le profit soit redéfini autrement, redistribué autrement. Donc, on n'est pas dans l'ordre de l'inéluctable. La seule chose qui soit vraiment inéluctable, moi je vais vous dire, c'est la survie de notre espèce sur cette planète et qui est mise en cause par la rationalité économique libérale. Si on continue à être aussi prédateur qu'on l'est à l'heure actuelle, du point de vue de la mise en œuvre des ressources humaines, on voit ce que ça donne, le burn-out, 1/3, vous vous rendez compte, 1/3 des salariés qui sont confrontés au burn-out, d'un côté, ensuite on voit les dégâts au niveau écologique, je pense qu'il est raisonnable de remettre en question, et moi je dirais, alors un petit bout de la solution, monsieur le diable, c'est de remettre en question quelque chose qui me paraît totalement archaïque, et qui est le socle sur lequel tient toute cette horreur du burn-out, des suicides, etc., c'est la subordination. À partir du moment où on s'autorisera à penser que cette subordination n'est pas utile ni du point de vue de la performance économique, ni du point de vue de l'engagement des salariés dans leur travail, on pourra faire un pas en avant.
Eh bien, je vous propose de bosser encore plus pour la troisième partie de Se énerver avant que Benoît Lagan casse complètement tout le studio 621. Ça a déjà commencé.
Vous voyez qu'on rit avec ce burn-out. C'est comme les bandes dessinées, c'est quand même extraordinaire.
When I was a boy, no rooftop on my joy. When I was a child, nowhere, no how, no one, nothing was not made of. One, two, three, four, five, six times the charm. Six, six, five, four, three, two, one. And hey.
Au travail, burn-out. Ben non, c'est quoi, c'est la, ben c'est la désannonce. C'est la désannonce. Vous voyez, je suis tellement stressé que j'ai déjà en train de commencer le troisième plateau. Kevin Morby sur France Inter et en concert au Cabaret Sauvage à Paris le 20 juin prochain.
Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis responsable des ressources humaines chez Michel et Augustin et je cherche des gens qui auraient le power. J'ai 6 postes à pourvoir.
Le nouveau rendez-vous.
Et on fait un cours de cookies avec tous les trublis.
Terminez les costumes cravates, oubliez les lourdeurs hiérarchiques. La start-up, c'est pour beaucoup la promesse d'un monde meilleur au travail.
Vous êtes les meilleurs.
Des tables de ping-pong, ou un baby-foot, un flipper.
Excellent lundi à tous !
Plein d'avantages en nature, des bons repas gratuits.
Oh, attendez.
Laurent Goumard.
C'est l'heure de la danse de la joie.
Sur France Inter.
Je crois qu'il n'y a rien de pire. Burnout.
C'est un peu de la caricature.
Mais au travail, j'avais compris, Benoît Lagan.
Non, on ne sait jamais.
Ne cassez pas la table.
au travail, burn-out ou bien-être, il faut choisir. Moi, j'ai choisi. C'est burn-out pour toute l'équipe ce soir. Benoît Lagarde.
Burn-out.
Oui, c'est ça, exactement. On en parle avec nos invités, et notamment vous, Zoé Touron. Vous êtes la co-autrice de Burn-out dans la petite BDTech des savoirs. J'imagine qu'en tant que BDiste, le burn-out, vous ne connaissez pas en tant qu'indépendante?
Et ben, c'est exactement ce que j'étais en train de dire à Daniel. C'est que là, c'est des choses que je connais par des amis qui sont confrontés à vivre dans, à travailler dans des open space ou des choses comme ça. Moi, je suis seule toute la journée en haut de ma tour. Je ne vois personne et ça m'est complètement inconnu.
Alors, justement, au niveau de l'histoire, peut-être même l'histoire des ressources humaines, comment elles se sont adaptées aujourd'hui? Est-ce que les psychologues ont une place plus importante au sein de l'entreprise pour prévenir les accidents professionnels, pour prévenir les tentatives de suicide? Maria Ouazini, vous qui êtes psychologue.
Est-ce que les psychologues ont une place plus importante? Je ne pourrais pas vous répondre vraiment directement, si ce n'est que le sujet, évidemment, devient plus important, que les entreprises aujourd'hui ne peuvent pas contourner cette question-là. Je pense qu'aujourd'hui, la question des risques psychosociaux, hein, il y a eu quand même en 2009, bah justement après la vague de suicide de France Télécom, le plan d'Arcos qui a quand même amené, obligé les entreprises, en tout cas de plus de 1000 salariés, à mettre en place des actions de prévention. Donc il y avait une question réglementaire déjà. Donc la question en soi, elle se pose évidemment comme une obligation en premier lieu. Aujourd'hui, les entreprises, au-delà de cet aspect réglementaire, essaient quand même d'aller au-delà de cet abord-là, parce que il y a une logique réglementaire qui suppose une faute, une plainte, quelque chose de la responsabilité qui en fait dévie un peu le sujet. Puisque les salariés, à la base, et on voit bien dans votre BD justement la question de l'évolution du travail, c'est-à-dire une sorte de dépossession un peu du travail. Les salariés étaient décrits, hein, dans votre BD comme beaucoup plus acteurs de leur devenir, et qu'aujourd'hui il y a quand même une sorte de dépossession. Enfin, en tout cas, moi je le lis comme ça, c'est-à-dire que la question aujourd'hui du salarié qui est un agent de tout ça, fait qu'il se sent dépossédé de sa propre activité.
Qui sont les gens qui viennent vous voir aujourd'hui, par exemple? Quels sont les symptômes que vous voyez le plus dans votre cabinet?
La question du burn-out, bien entendu, est évoquée. Pas forcément comme un état, mais au moins comme une façon de parler de sa souffrance, ou en tout cas de ses propres limites, à un moment donné. Il y a aussi d'autres situations, hein. On a les conflits au travail, hein, les différents relationnels qui occupent une place importante, hein, dans la vie au travail. En tout cas, les climats dégradés pèsent beaucoup et peuvent participer, hein, à un mal-être. Et puis, tout ce qui relève de l'incertitude, de la crainte aussi de perdre son emploi, tout simplement, hein, ça fait partie aussi des choses qui sont soulevées par les personnes qu'on accompagne, oui.
Hubert Prolongeau, par rapport à cette notion de qualité de vie qui serait améliorée par des numéros verts, par des psychologues, vous vous dites que c'est cautère sur des jambes de bois.
Alors, je répète surtout, parce que c'est ce que m'ont dit tous les spécialistes que j'ai rencontrés à nouveau pour rédiger une postface à cette histoire. Oui, tout ça laisse intact l'organisation même du travail. C'est-à-dire, ok, c'est bien d'avoir une table de ping-pong quand on se sent pas bien pour aller jouer. C'est sans doute mieux que s'il n'y en a pas. Mais tant qu'on a des objectifs difficilement atteignables, une pression dingue, qu'on ne sait pas qui s'adresser, qu'on est dans le désarroi, ça change pas grand-chose. L'idée n'est pas de faire de l'entreprise une espèce de ludothèque sympathique où tout le monde s'amusera. C'est d'essayer que le travail des gens ait pour eux un sens. Je crois que l'une des causes des plus fortes de cette déconnexion, de ce qui pousse les gens à ces actes extrêmes, c'est la souffrance éthique. C'est-à-dire qu'on vous fait faire des choses qui ne correspondent pas à ce que vous voudriez que soit votre métier. C'est ce qu'on évoquait évidemment avec le médical, ou enquiller les patients les uns après les autres sans avoir le temps de les écouter. C'est ça, c'est justement ce qui ne se fait pas dans les pattes dont je vous parlais, où l'absence de rentabilité obligée fait qu'on peut passer tout le temps qu'il faut à écouter les personnes âgées, à essayer de comprendre ce qu'elles ont envie, à essayer de les assister, de les aider. Tant qu'on n'aura pas redonné ce sens-là, on peut effectivement installer des piscines, des cours de yoga et des entretiens avec des psys. C'est mieux que s'il n'y en avait pas, mais ça ne résout pas grand-chose. Il faut repenser, je crois, mais je n'ai aucune compétence pour le faire, l'organisation même du travail.
Daniel Linhart, vous avez fait le choix, hein, dans votre BD de vous mettre en scène avec votre père, le sociologue Robert Linhart, et il est question aussi du burn-out de votre fils sorti en école d'ingénieur. C'était important.
Oui, alors d'abord, ce n'est pas mon père, c'est mon frère.
Non, je sais, c'est votre frère.
Non, mais c'est mon frère. Ouais. Bon, d'accord.
C'est vrai.
Non, bon, tout ça.
Au moment où j'ai dit, je me suis dit que je m'étais trompé.
Mais bon. Non, je voulais essayer de... de mettre dans le débat public tout ce que, depuis 40 ans que je fais l'office de sociologue du travail, j'ai pu accumuler comme recherche empirique et comme résultat et qui me conforte dans cette vision du monde du travail qui est que il faut changer. On ne peut plus continuer comme ça. C'est trop destructeur et on perd le sens même du travail. Non pas simplement le sens de ce qu'on fait quand on travaille, mais le sens même du travail. Parce que le travail, c'est une expérience socialisatrice. C'est une sorte de cordon ombilical qui relie chacun à la société. Même s'il est tout seul dans sa tour, ou s'il est à côté de d'autres dans une chaîne de montage, il travaille pour les autres, il travaille pour autrui, il donne du sens à son travail. Or, la modernisation managériale met en concurrence systématiquement les uns avec les autres et met chacun en concurrence avec soi-même. Il faut non seulement qu'on soit meilleur que les autres, mais il faut qu'on se dépasse en permanence, qu'on aille toujours plus loin, qu'on essaye d'atteindre un idéal du moi qui est toujours de plus en plus exigeant. Et du coup, on perd le sens du travail dont la finalité est d'être un travail pour autrui et on se trouve dans une épreuve solitaire, une épreuve angoissante solitaire. Donc, je pense que ces nouveaux phénomènes, quand même, de burn-out, de suicide, qu'on ne connaissait pas à ce point, il s'agit pas de dire que dans les 30 glorieuses, le travail était facile, loin de là. C'était horrible. Mais il n'y avait pas cette même intrusion dans le psychisme qui est une intrusion destructrice et qui fait que le burn-out, pour moi, c'est pas simplement un épuisement professionnel. Certes, il y a un épuisement qui est lié à la nécessité de reconquérir la maîtrise cognitive à cause du changement perpétuel, etc. Mais il y a un effondrement de la confiance qu'on peut avoir en soi et dans les autres et qui fait qu'on sombre et il y a un effondrement personnel. Le burn-out, c'est ça. Ce qui fait que quand on se repose, on peut se reposer 6 mois, 1 an. Si on a un burn-out, le jour où on reprend le chemin de l'entreprise, on retrouve le même
malaise. Au même niveau, d'accord.
Il y a des gens qui retrouvent des paralysies, des nausées, qui s'évanouissent, etc. Alors qu'ils sont parfaitement reposés. Le burn-out, c'est une remise en cause de soi. Et la modernisation managériale, elle va jusqu'à transformer les individus en les mettant justement en concurrence avec le reste du monde et avec eux-mêmes. Et ça, c'est sans fin et sans fond.
Est-ce qu'il y a des pays où il y a moins de burn-out que d'autres ? Est-ce qu'on a des expériences comme ça au niveau européen, des pays où les conditions de travail, les conditions de management sont beaucoup moins terrifiantes?
Moi, je crois que la France, de ce point de vue-là, est un des pires exemples.
Ah ouais?
Oui, pour une bonne raison, c'est que le management est français est totalement obsédé par la nécessité dont je parlais au début d'asseoir son emprise sur les salariés et a cette conviction que n'ont pas d'autres managers dans les autres pays, que les salariés français sont dangereux potentiellement en raison de l'histoire que nous avons de la lutte des classes durant les 30 glorieuses et puis de ce qu'on appelle la logique de l'honneur, que les salariés mettent leur honneur dans le travail alors que d'autres salariés dans d'autres pays ont une relation plus contractuelle au travail. Il y a cette idée fondamentale que il y a le rapport de force qui reste inscrit fondamentalement dans l'esprit des salariés et la volonté de prouver leur honneur grâce au travail. Et donc, il y a cette idée managériale qu'il faut plus les contraindre, les contrôler, les tenir, et donc plus les mettre en concurrence, plus les défier, etc. Et ça, je pense que c'est exacerbé. Bien entendu, ça existe dans les autres pays aussi.
Au Japon, j'imagine aussi. Ouais.
Alors, au Japon, c'est...
Oui, une autre histoire, mais le code de l'honneur au travail, ça existe aussi.
C'est considéré autrement, mais effectivement, le code de l'honneur, il est social, il est socialisé, c'est un peu différent. Mais vous avez raison, le Japon est un autre cas extrême.
Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci à vous tous et à vous toutes. Maria Ouazani, je renvoie sur le site du cabinet de prévention et gestion des risques psychosociaux, c'est psia.fr. Daniel Linhart et Zoé Touron, Burnout est disponible au Lombard. Et enfin, Hubert Prolongeau, Le Travail m'a tué, ça vient de paraître aux éditions Futuropolis et c'est co-signé avec Grégory Mardon et Arnaud Delalande.
La poésie s'en est allée, je la soupçonne d'être passée par chez toi. De s'être allongée dans ton lit et d'avoir écouté la pluie sur le toit. Elle avait si peu à confier, pas du genre à trop s'épancher quelques mots. Qu'elle a laissé sur ton bureau quelques ratures au stylo, puis elle s'en est allée, puis puis elle s'en est allée. Il nous a fallu quelques jours pour être moins aveugles et sourds et trouver que l'air était un peu plus lourd, nos épaules un peu plus rentrées et penser qu'après avoir tant annoncé un départ mille fois reporté, elle avait ôté le manteau du crochet où depuis des siècles il pendait, puis s'en était allé, puis s'en était allé. Sommes-nous des enfants perdus, la forêt à perte de vue, ou le soir refuse de nous abandonner, de laisser à l'obscurité tout pouvoir sur notre histoire mal engagée. La pleine lune est convoquée pour déjouer les pièges d'une nuit trop noire, aux abords d'un abattoir, sans un poème pour nous sauver, sans un poème pour nous sauver. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé qu'elle n'avait pas pu s'en aller sans passer par chez toi et sur ton bureau. J'ai vu les ratures au stylo, quelques mots qui se sont glissés sous ma peau, sur ton visage et sur tes mains, ils ont pris le rythme d'un cœur en sursis, et leur pouls était faible aussi, mais il faudrait s'y raccrocher, mais il faudrait s'y raccrocher.
Et bien voilà quelques mots de poésie, enfin signé Dominica, pour clore ce énervé, car oui, c'est fini pour aujourd'hui. Et le Nervé, cette année, vous le savez, ça commence dès 18h en avant-première sur franceinter.fr en podcast. Et puis ça recommence 22h minuit, toujours plus, ils en veulent toujours plus, 22h minuit à l'antenne comme tout le monde. La réalisation était signée Marion Lelay et Juliette Medevielle. À la préparation, c'est toute une équipe. Virginie Rouzic, Corinne Valente, Laure Grand-Besançon, Benoît Lagan, Gaëtan Lévy et Louise Achos. À la technique, ils sont deux Cléments sinon rien, Clément Berman et Clément Vuillet. Demain, on se retrouve toutes et tous. Et on sera là avec lui. King Kong en BD, oui, c'est signé Christophe Blain. En live, ça sera Gauvin Cers. Et dans le Énervé, la suite, humour. Un point virgule, c'est tout. Il faut que je mette au point l'énoncé parce que j'y comprends rien. Tout est dit. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter le bonsoir. Allez, à demain.
Rendez-vous.
Tu vas donner rendez-vous demain.